Il y a un deuxième point. C'est tout à l'heure, on parlait de conscience. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la conscience, eh bien, on peut en avoir et on n'en a pas aussi. On a les deux. D'ailleurs, est-ce que vous savez quand est-ce que vous n'êtes pas conscient? Par définition, c'est pas très facile comme question. Est-ce que, à votre avis, combien de pourcents de votre temps vous n'êtes pas conscient? Combien? Vous êtes complètement inconscient. Vous savez, parce que c'est super inconscient, mais combien de pourcents du temps on n'est pas conscient? Combien?
Mais ça veut dire
quoi,
travailler avec le cerveau?
Ça veut dire que vous êtes capable de faire des tas de trucs, mais vous n'êtes même pas du tout conscient, vous n'avez pas du tout les faits. Vous êtes tout le temps conscient ou tout le temps inconscient?
Inconscient.
Si, on a quand même des moments de conscience, heureusement, on a à peu près 10% de temps de conscience, ben, maximum, entre 1 et 10%. Alors, je vais prendre un exemple. Ça vous est déjà arrivé de prendre votre voiture, et puis à un moment donné, j'ai même pas fini que là, en fait, vous prenez votre voiture, vous allez à un endroit, et enfin, vous pensez, vous avez tellement l'habitude d'aller là que vous allez là-bas et la voiture elle va toute seule là-bas. Alors d'une certaine manière, vous n'avez pas été complètement pleinement conscient, mais pendant ce temps-là, vous avez conduit, vous n'avez pas écrasé la vieille dame, vous êtes arrêté au feu rouge, vous avez fait tout ce qu'il faut. On est capable de faire des actes extrêmement complexes, même non conscients. Donc il y a des aspects où dans un groupe, on va être conscient. Et puis, des fois, on peut ne pas être conscient aussi de ce qui se passe. Là, par exemple, je suis conscient de la discussion qu'il y a là, mais je pourrais aussi regarder là et ne pas être conscient, par exemple. Donc, il y a plein de choses. Alors, on va essayer de regarder les différents types d'aspects qui vont nous intéresser. Premièrement, c'est pas parce qu'il n'y a pas du tout de conscience que l'on ne peut pas avoir de l'organisation là-dedans. Un petit exemple là-dessus. Regardez ça. Ceci est une cathédrale, magnifique. J'ai pas réussi à trouver le nom d'architecte parce qu'il n'y en a pas. C'est fait par des termites. Alors comment ça marche? C'est fait de cette façon assez incroyable. Vous avez un petit termite qui a une petite boulette. Alors il fait une petite boulette comme ça avec ses petites pattes. Et puis il va l'amener. Alors évidemment, pour arriver à ce que ça fait bien, il met un peu de salive dessus et hop, il l'amène. Et il le met où? Il le met là où ça sent. Donc là où il y a déjà des petites boules. Donc s'il y a déjà un termite qui a posé un truc n'importe où ici, eh bien il va avoir tendance à le mettre dessus. Donc petit à petit, eh bien, ça commence à faire un pilier. Alors il y a toujours un termite un peu bazar, parce que vous savez, on voudra bien que tout soit organisé, nous les humains, mais dans la nature, c'est pas comme ça que ça marche. Et il y a un termite, il n'a rien compris, il est un peu myope ou un peu. Ils sont pas très bien, et hop, il l'a mis à côté. Alors c'est pas grave parce qu'il y a un deuxième pilier qui commence à se faire. Et puis à un moment donné, le termite qui est tout en haut du premier pilier, il commence à dire ah, ça sent là, mais ça sent aussi à côté parce que ça commence à faire un sacré paquet aussi. Alors il commence à mettre son truc un petit peu de travers. Et pareil pour les autres. Et petit à petit, ça fait des arches. Et donc, de façon absolument auto-organisée, voilà le résultat, par exemple, d'une termitière faite intégralement en auto-organisation, sans que personne ne soit conscient de à quoi il faut obtenir, qu'est-ce qu'on obtient. Vous avez la même chose sur les animaux. Vous savez, quand les oiseaux volent en faisant un V comme ça, la règle, c'est très simple. Pour ne pas me payer l'autre devant, il faut que j'ai une certaine distance, mais il faut que je sois suffisamment proche. Les simulations sur ordinateur montrent que quand on prend ces deux règles-là toutes simples, faut pas être trop proche des autres, mais suffisamment, eh bien, et puis qu'il y en a un qui commence à voler, eh bien les autres, ils s'articulent en V comme ça. Donc ça veut dire qu'avec des petites règles, on peut très bien faire un groupe qui marche sans que personne ne comprenne pourquoi, comme les termites. Ça s'appelle d'ailleurs, donc je reprends le...
notre petit truc, hein.
Ça s'appelle la stigmergie, ça c'est si vous voulez brillant en société. Hein. Donc la stigmergie, c'est l'intelligence en essaim, c'est l'intelligence des animaux. Et c'est aussi l'intelligence qu'on va trouver dans un groupe. Donc une part de ce qui se passe dans votre groupe est auto-organisée. Après, il se trouve que, à un moment donné, le coordinateur, qui n'est pas au courant de tout, parce que finalement vous ne savez pas exactement tout ce qui se passe, eh bien, peut avoir une certaine intention. Alors si vous êtes malin, vous allez vous dire, bah, tiens, je commence à comprendre la règle des petites boules, la règle des ceci, la règle de cela, et je vais peut-être organiser mon groupe avec des règles du jeu qui vont permettre que ça s'auto-organise dans le bon sens. Donc plutôt que de dire, toi tu fais ça, de façon autoritaire, et on a vu que ce n'était pas du tout l'objet, eh bien on va essayer d'organiser l'environnement avec des petites règles du jeu. C'est d'ailleurs un des aspects qu'on va apprendre pendant ces deux jours. Et à ce moment-là, eh bien je peux commencer à avoir... je dirais quelque chose qui est la coordination des intelligences. Donc, il y a plein de gens qui sont intelligents, qui font des tas de trucs, mais je vais, moi, coordinateur, essayer de les coordonner. Donc ça veut dire que je suis à ce stade-là, ce qu'on appelle d'ailleurs en logiciel libre, un dictateur bienveillant. je ne suis pas encore à l'ultime de la coopération, mais déjà, ça me permet de faire des choses assez sympas, parce que j'arrive à faire bosser les gens ensemble dans un but bienveillant. Dictateur bienveillant, c'est votre premier rôle. Alors après, on verra comment en sortir. Mais oui, ça passe aussi par là. Dictateur bienveillant, c'est-à-dire, je vais, moi, choisir les règles du jeu, les règles du jeu, effectivement, pour que finalement, eh bien, on arrive à fabriquer... ça. Donc, quand on fait une cathédrale, normalement, il y a un dictateur tout simple qui dit « Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. » La façon coopérative de faire les choses, c'est de dire « Tiens, on va mettre une règle du jeu avec ces petites boulettes pour que, en fait, la cathédrale se fasse plus naturellement. » Un peu le, alors le chef de cuisine, en général, est dictateur pas bienveillant, ça gueule dans tous les sens. Il faut que ça soit bon, ouais. Mais par contre, il essaie de planifier parce que lui, on va voir qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Alors que là, en fait, la cathédrale peut être là ou elle peut être là. Donc on ne sait pas exactement. C'est comme si on faisait un chef de cuisine où on ne sait pas très bien le plat qu'on va avoir à l'arrivée. Ça peut être absolument génial pour inventer des nouveaux plats. Mais ce sera plutôt le laboratoire que la cuisine du restaurant où là, il ne faut pas se tromper. Donc, en fait, on a un phénomène non reproductible.
C'est cool.
Alors, il y a un troisième cas de figure. C'est imaginer que vous compreniez ce qui se passe. Alors, tout le monde ne comprend encore pas tout. Hein, il est évident que même à ce stade-là, même si vous êtes très, très intelligent, vous ne verrez pas tout. D'abord, à cause de l'aveuglement dont on a parlé. Et vous allez essayer, au contraire, de comprendre le maximum. Et puis, il y a une petite partie qui sera auto-organisée. D'ailleurs, c'est assez fabuleux, si vous avez déjà fait des groupes, vous dites à un moment donné, c'est magique. Et ouais, d'une certaine manière, c'est magique. C'est-à-dire qu'il y a une partie que vous essayez de faire, et puis bah, ça se débrouille un peu différemment aussi, et puis bah, il y a une part de tout organiser. Alors il y a encore un autre niveau, c'est de dire, finalement, c'est plus vous le coordinateur, mais c'est au niveau individuel, qu'est-ce qui peut se passer dans l'interaction entre les personnes. C'est, par exemple, il se trouve que l'humain a une particularité aussi, enfin, un développement particulier de l'empathie, même si d'autres animaux l'ont aussi, et donc la capacité à comprendre l'autre. Alors, il y a des cas de figure où c'est compliqué. En cas de conflit, quand on est à distance, sur Internet, etc., on a des difficultés là-dessus. Mais si on arrive à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe et comment faire en sorte que l'autre puisse coopérer, même si les personnes de mon groupe, moi je suis animateur, et je comprends, j'ai pas vu ce qui se passait là entre deux personnes, eh bien il se passe des tas de choses entre deux personnes dans un groupe. Et à ce moment-là, eh bien, on va voir aussi, on verra comment développer cette conscience individuelle des membres du groupe là-dedans. Et puis, de façon ultime, ça serait de dire, bah, ça serait bien que tout le monde, il arrive à avoir un but commun, que tout soit dit, etc. Donc ça serait ce qu'on pourrait appeler la conscience collective. Pour distinguer un peu, parce que ce terme de conscience collective, ça fait un peu ésotérique, un peu bizarre, mais imaginez que nous, on est une famille, repas de famille. Il y a un grand secret honteux dans la famille. Tous, nous sommes au courant. Par contre, c'est tellement honteux qu'on ne peut pas en parler. Eh bien, vous verrez que les résultats que ça va donner, c'est des résultats où, c'est, à la limite, même si on est tous au courant, malgré tout, il y aura un certain nombre de phénomènes qui sont dus au fait qu'on ne peut pas le dire. Donc, le non-dit, par exemple, c'est un élément qui va restreindre cette conscience collective. Alors, il suffit de dire, ben, c'est simple, dans un groupe, eh bien, on va... faire en sorte qu'on va dire le maximum de choses, y compris ce qui ne va pas, d'ailleurs, c'est bien de le faire, hein, c'est très très bien. La seule chose, c'est que aveuglement paradigmatique oblige, j'ai oublié quelque chose dans l'histoire, c'est que non seulement j'ai peut-être fait en sorte qu'on ait de plus en plus de conscience ensemble, collective, que l'on dise tout, mais j'ai oublié de traiter ce que l'on n'a pas encore dit. Et c'est pas facile de dire, ah bah ben, tel, il est vraiment con, il me fait chier, etc. C'est pas très facile à dire collectivement toujours. Et donc, il y a quatre choses, il y a toujours des non-dits dans un groupe. Donc, il va falloir qu'on fasse à chaque fois deux choses. Rappelez-vous le problème de Janus, rappelez-vous le problème qu'on avait tout à l'heure. On va être obligé à la fois de traiter pour arriver à avoir le maximum de conscience, c'est-à-dire de passer de là à là, et faire en sorte que malgré tout, eh bien, il y a des trucs qui vont se passer que à ce niveau-là, que à ce niveau-là, ou même que à ce niveau-là. Donc, il va falloir eh bien, qu'on traite un petit peu tout ça en même temps. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire que ça s'avance? Eh bien, le dialogue, par exemple. Donc il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a telle chose, on en verra quelques-unes, pour faire en sorte que, premièrement, vous puissiez être conscient de ce qui se passe. C'est l'exercice qu'on va faire cet après-midi, dans votre groupe. Donc vous allez essayer de devenir conscient d'un certain nombre de mécanismes qui se passent dans votre propre projet. Deuxièmement, on peut essayer de faire en sorte que, bah, effectivement, les personnes individuellement dans le groupe commencent à comprendre aussi ce qui se passe dans le groupe, entre les personnes, etc. Et puis on peut même essayer de faire en sorte... au maximum, qu'il y ait cette prise de conscience collective. Et puis, ben ça c'est nos amis, et il y a des tas de choses qui font qu'on rabaisse, c'est quand il y a des non-dits dans un groupe. Alors je vous rassure, il y en a toujours. Donc voilà. C'est au niveau individuel, il y a plein de choses qui rabaissent. Si vous voulez faire en sorte qu'un groupe ne coopère pas, c'est très très simple. Il faut que les gens aient peur. Vous faites un système, c'est un gros avantage, c'est que s'ils ne coopèrent pas, c'est vrai, ça c'est embêtant, mais alors quelqu'un qui a peur, il va donc être plus individualiste, et il va consommer. Donc si vous voulez que les gens consomment simplement, vous faites en sorte qu'à la télévision on ne voit que des trucs anxiogènes. Si vous voulez que les gens coopèrent, vous ne mettez pas que des trucs anxiogènes, vous mettez des trucs sympas. Après vous choisissez la société que vous voulez, Mais en tout cas, ça veut dire que la peur, et lorsqu'il y a des mécanismes de peur dans le groupe, oui, bien sûr, ça va baisser. Alors, la colère aussi, hein, à des moments donnés, on perd notre propre conscience. Dans la peur et la colère, c'est les deux moments où on perd le plus notre conscience. Donc, vous pouvez dire, bah oui, moi je suis tout le temps conscient. Non, non, c'est pas vrai. D'abord parce qu'il y a 10% de temps où on est conscient. Et deuxièmement, si je vous mets en colère ou si je vous fais peur, eh bien, hop, plus rien.